France Bleu RCFM. France
Bleu. Yeah.
Hal.
Hal qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Toc Toc.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Toc Toc.
Tout est oublié, on n'est plus la chérie, on n'est plus... on n'est que son esclave, on va dire. J'ai été à le supplier, arrête, ne me frappe pas. Et je me souviens que la première fois... Une heure avant, on a été manger dehors, on avait écouté de la musique. On rentre à la maison, une petite dispute, un petit désaccord. Il m'a traîné d'une chambre à l'autre par les cheveux, il m'a percé le tampon de l'oreille, il m'a fait une déviation nasale. Et malgré tout, je l'ai pardonné.
Qu'est-ce qu'on peut faire en préventif? Qu'est-ce qu'il faut dire à nos filles? Comment on repère qu'une relation devient toxique?
Et que tous réunis, nous pensions très fort à toi. Ainsi qu'à toutes celles qui ne sont plus là, mortes parce qu'elles étaient des femmes.
Quand une personne se dit, oh, maintenant c'est bon, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça ne sera jamais terminé. Parce qu'elle continue à grandir dans ma tête. Je fête les anniversaires, je lui amène un sapin de Noël, Pour moi, elle continue de vivre tout en n'étant pas là. Et c'est ça qui est compliqué parce que la présence, ça se remplace pas.
T'es obligée de me filmer?
Oui.
Tu veux pas aller filmer Mathilda?
Non.
Pourquoi tu me filmes, maman?
Parce que t'es belle, c'est tout.
J'ai été battue 2 fois. Elle a recommencé. Au départ, des harcèlements, après des petits coups. Et puis ensuite, vraiment, il est devenu très, très, très violent. Si j'ai osé parler, d'autres peuvent le faire.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Toc Toc sur RCFM. Les voix courageuses que vous venez d'entendre sont extraites du film documentaire Savannah, que vous découvrirez en avant-première le mardi 24 septembre, mardi prochain à 21h au cinéma L'Ellipse, et à découvrir également sur France 3 Corse VST le vendredi 27 septembre à 20h45. Pour en parler, je reçois le réalisateur du film Savannah, Francesco Artilli. Bonsoir, merci d'être là.
Bonsoir, merci Marie.
Et merci pour avoir fait ce film.
Merci à vous, merci pour votre invitation.
Catherine Albertini, vous êtes la productrice du film. Bonsoir également, merci d'être là.
Bonsoir Marie, merci de votre invitation.
Et Mylène Jacquet, bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Savannah et vous êtes la maman de Savannah, l'une des protagonistes principales de ce film. Bonsoir.
Oui, bonsoir, merci.
Également, Francesco, vous présenterez un autre, le 6 octobre, au festival, formidable festival Passion Cinéma. Ce film, Island Road, un film sur l'île de Jean-Charles, située dans le bayou au sud-est de la Louisiane. On en parlera avec précision un petit peu plus tard dans l'émission. Alors évidemment, je suis très émue d'avoir entendu ces voix sur l'indicatif de Toc Toc. C'est pour moi une nécessité absolue de parler de votre association Savannah et de parler également du travail que réalise Francesco Artilli. Je crois que vous êtes tombée sur un article qui parlait de Mylène qui se battait et qui défendait cette association. Ça s'est passé comme ça?
Oui, c'est comme ça en fait. Alors il faut dire avant toute chose qu'avec Catherine Albertine, la productrice, on aime beaucoup parler de divers sujets, on va dire de société. Et c'est vrai quand on est tombé un jour par hasard sur un article du Corse Matin qui racontait un petit peu le combat de Mylène. À travers son association, on connaissait tous l'histoire de Savannah. Mais par exemple, j'ignorais que Mylène avait monté une association, et donc du coup, on s'est intéressé avec Catherine pour on voulait en savoir plus, savoir un petit peu l'origine de l'association, le combat que menait Mylène. Donc on a essayé d'en savoir plus, et puis après, c'est né d'une rencontre.
Catherine Albertini, les sujets de société que vous choisissez des sujets pour la plupart, toutes les formes de discrimination, les oubliés, les invisibles, celles et ceux qui sont dans la nuit et que vous avez envie de mettre en lumière.
Oui, tout à fait. L'idée de départ, c'est en fait de donner la parole à des personnes, à des personnalités qui n'ont pas l'habitude de parler. C'est un peu faire émerger tous ces sujets qu'on pourrait, comme vous le dites, qualifier des oubliés de la société. Donc c'est rechercher, un peu sonder et leur donner la parole. L'idée, c'est de ne pas être dogmatique ou directif et de les écouter, de les laisser parler et de les laisser nous dire ce qu'ils ont envie de nous dire.
Votre combat est permanent, Mylène Jacquet, vous n'arrêtez jamais. Pourquoi avoir accepté ce film ?
D'abord parce que c'était une manière de rendre un hommage à ma fille et à toutes ces jeunes femmes qui ont été victimes, comme elle, des violences et qui en ont perdu la vie. C'était aussi pour rendre compte au public, à un grand nombre de personnes, que les violences ne sont pas un phénomène isolé, mais que ça concerne beaucoup de monde, plus que l'on croit. Et c'était un moyen pour moi aussi de faire voir ce que l'association a rencontré comme difficulté, comme il y a eu des rencontres aussi très riches et qui ont fait avancer l'association.
Mylène, il y a des passages dans ce film documentaire, Savannah, où on vous voit dans les foires, ou en public, ou en train de faire les puces pour récolter de l'argent pour l'association. Alors, vous êtes très proche aussi de l'association Les Femmes Solidaires, on en reparlera. Et on sent que les gens, la plupart du temps, sont un peu indifférents. Ils passent devant vous. Il faut les arrêter, il faut leur demander un peu de temps. C'est compliqué de sensibiliser le public.
Oui, c'est compliqué parce que, comme je disais, je pense que la majorité des personnes pensent que c'est un phénomène qui reste isolé, que ça ne les concerne pas. Et puis, c'est toujours difficile de se pencher sur des problèmes aussi cruciaux et aussi difficiles à imaginer et qui sont vraiment des violences terribles.
Ces violences faites aux femmes ne cessent d'augmenter. C'est un bilan terrible, Michael Andréani.
Oui, un bilan terrible avec ce chiffre, Marie, que l'on a relevé d'ailleurs et qui a augmenté depuis 2 ans. Une femme décède tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint en France. Et la dernière en date s'appelait Shafia, elle avait 53 ans, elle vivait en Moselle. Elle a été assassinée par son conjoint à l'arme blanche. Son corps a été découvert lundi matin, pas plus tard donc qu'il y a 2 jours. C'est donc le 106e féminicide en France depuis le 1er janvier. Et malheureusement, Marie, certains comportements et raisonnements malsains ont la peau dure. Vous êtes sans doute tombé récemment à la veille du Grenelle sur les violences conjugales sur ce micro-trottoir réalisé par Antenne 2 en 1975. Il a été relayé sur les réseaux sociaux récemment par Lina. La question, très simple mais très lourde, battez-vous votre femme? Écoutez cet extrait assez glaçant, il faut le dire.
Et si vous vous mariez, vous battrez votre femme?
Si elle en a envie, oui.
Il y a des femmes qui aiment ça par habitude peut-être. Il y en a qui aiment être battues. Il y en a qui ne sont pas battues parce qu'elles n'ont pas besoin d'être battues.
Mais je sais qu'il y a des femmes qui se font battre. Et si je vous disais que moi je bats ma femme pour qu'elle soit plus gentille et plus amoureuse de moi, qu'ils ont pensé? Moi, si je veux taper ma femme, je suis sûr qu'elle fera mieux l'amour.
Quand le dialogue n'est pas possible, j'ai vu quelques dessins humoristiques avec « Entrez-vous ça bien dans la tête ». Vous savez, c'est le dessin avec un marteau. Alors, à certaines femmes, il faut leur faire rentrer à coups de poing.
Voilà, donc extrait franchement glaçant, il faut le dire. Pour revenir à notre époque qui n'est hélas pas plus glorieuse, je voulais quand même évoquer le Grenelle des violences conjugales qui a débuté le 3 septembre dernier sous l'égide de la secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes, Marlène Schiappa. Des mesures d'urgence ont été présentées à cette occasion, il y en a 10, on en retient quelques-unes comme les bracelets électroniques d'éloignement ou encore l'autorité parentale suspendue pour les personnes incriminées, sans oublier aussi pour les victimes la création de places supplémentaires dans les centres d'hébergement d'accueil entre autres. N'oublions pas non plus le numéro d'appel d'urgence pour les femmes victimes de violences, le 3919, qui existe depuis 1992, mais qui est au cœur d'une récente campagne de sensibilisation, notamment à l'occasion de ce Grenelle. Numéro qui ne fonctionne pas la nuit, pour l'heure, mais qui devrait être ouvert 24 heures sur 24, annoncé d'ailleurs aujourd'hui Marlène Schiappa. Parmi les mesures, Marie, de protection déjà existantes, il faut citer aussi l'éloignement du conjoint violent, la remise d'un téléphone grand danger également. Il faut préciser aussi qu'en cas de violence, la victime dispose d'un délai de 6 10 ans pour porter plainte. C'est assez long, mais on sait que malheureusement, des fois, il faut aussi du temps pour que la parole se libère. Et du point de vue de la loi, selon le degré de gravité des faits, il faut savoir que les peines encourues vont de 3 ans de prison à la prison à perpétuité et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. On citera, pour terminer sur une note entre guillemets plus positive, l'exemple de l'Espagne qui a mis en place depuis 2004 une politique active via une loi intitulée relative aux mesures de protection intégrale contre la violence de genre. Dans ce pays de 47 millions d'habitants, les féminicides reculent. 47 femmes sont mortes en 2018 contre 71 en 2003. Ça reste 47 femmes de trop, mais quand même 47 vies épargnées.
Donc une loi qui fait ses preuves, et ça c'est un fait, Michael Andréani.
Voilà. Avec des dispositifs nombreux, notamment la sensibilisation à l'éducation, des tribunaux spéciaux qui ont été créés et une prise en charge aussi dans des délais impartis beaucoup plus courts et ce qui est encadré en tout cas par la loi espagnole.
Mylène, lorsque le Quidam vient vers vous et vous pose la question suivante, voilà, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est victime de violences conjugales, elle ne veut pas porter plainte, elle a peur, elle aime son compagnon, qu'est-ce que je peux faire, moi qui suis au courant de la situation?
Bah, je pense qu'il faut, parler à sa place. Parce que maintenant, il faut arrêter de se taire en pensant qu'on va trahir la personne. Mais je pense que c'est peut-être sauver une vie et qu'il vaut mieux faire une déclaration, à la limite, en trop, qu'une déclaration qui ne sera pas faite et qui va amener à une violence importante.
Il y a une dame qui vous questionne dans le film documentaire Savannah et qui vous dit « Mais où va l'argent ? Pourquoi vous avez besoin d'argent ? Qu'est-ce que vous en faites de cet argent ?»
Bah, l'argent, il sert à mettre au point des manifestations, des événements, justement pour se faire connaître. Il sert au déplacement sur Paris, puisque, comme on disait tout à l'heure, je suis aussi femme solidaire et donc je fais partie de collectif national et donc il y a des déplacements sur Paris pour avoir accès à des formations, parce que accompagner les femmes, ça s'improvise pas. Il faut aussi être au contact de personnes qui ont l'habitude de le faire et puis il y a des façons de faire ça. On ne peut pas improviser. Donc il y a les voyages sur Paris. Ensuite, il y a aussi l'achat de supports pour faire des interventions dans le milieu éducatif, qui à mon avis sont encore trop justes. Il faudrait intensifier les actions auprès des jeunes.
Pour communiquer, pour la prévention, ouais.
Pour la prévention, pour faire de la prévention contre les violences en général, faire aussi des interventions au niveau des CM2, pour les mettre en garde contre les dangers de tout ce qui est stupéfiant, internet, où on voit énormément de violences et où on peut voir combien les rapports entre les hommes et les femmes sont dégradés. Je pense notamment aux films porno auxquels les jeunes ont accès très tôt.
Et très librement. Un concert de soutien aura lieu avec l'association des femmes solidaires à Herbalong le 21 septembre. Et puis il y aura plusieurs conférences et rencontres le 22 septembre, le lendemain. Voilà, si vous nous entendez et que vous avez envie de participer et d'apporter votre pierre à l'édifice, c'est déjà une porte qui vous est ouverte. Mais on peut contribuer directement en vous contactant l'association Savannah ou encore les femmes solidaires.
Oui, tout à fait.
Alors Francesco Artilli, comment fait-on un objet de cinéma avec des sujets qui nous concernent tous et qui sont aussi lourds, sans sombrer dans le pathos, sans rentrer dans trop d'intimité?
Je reconnais que c'est pas facile. Moi, j'ai l'habitude de procéder. Je réfléchis beaucoup avant de me lancer sur un sujet. Je prends le temps d'observer, d'analyser, beaucoup de temps à l'écriture, au repérage. Mais c'est vrai que voilà, moi je tends plutôt vers ce cinéma-là, c'est un cinéma de réflexion en tout cas, qui porte un message sur que ce soit sur la société, sur l'humain. Mais il faut passer beaucoup de temps et voilà, en gros c'est si je devais résumer un petit peu mon travail, ce serait Je le porterai en tout cas de cette manière.
Laisser des silences, les habiller par l'image, par le cadre, par la lumière.
Oui, aussi, s'imposer un, un, un style filmique, c'est-à-dire vous savez, c'est pas parce que vous faites du documentaire que vous devez avoir des cadres laids ou neutres. J'essaye quand même d'imposer une poétique dans mes films. Et puis on a un langage cinématographique et puis je m'en sers tout simplement. Donc voilà, j'essaye de garder ce cap en tout cas.
Vous savez ce qu'on dit des plus grands écrivains, ce sont eux les plus grands lecteurs. Et Francesco Arti, il est un grand réalisateur et un grand consommateur de cinéma. Il m'a d'ailleurs fait découvrir un réalisateur, Félix Van Groningen, qui a changé ma vision personnelle du cinéma. Et je voulais vous faire un clin d'œil et vous remercier en écoutant un extrait de la bande originale de Belgica.
Très bon choix.
Donc cet extrait de la BO du film Belgica de Félix Van Groningen. Nos invités, le réalisateur Francesco Arti, la productrice Catherine Albertini et la présidente de l'association Savannah, Mylène Jacquet, pour nous parler du film documentaire Savannah que vous pourrez découvrir en avant-première mardi prochain, le 24 septembre à 21h au cinéma L'Ellipse, et à découvrir également sur France 3 Corse VST là, le vendredi 27 septembre à 20h45. Catherine Albertini, Votre rôle n'est pas seulement un rôle de productrice, c'est également un rôle de co-scénariste. Vous avez écrit également ce film.
Oui, tout à fait. Ce que j'ai envie de dire, c'est que au départ, comme l'a rappelé tout à l'heure Francesque, au départ, il y a cette lecture commune d'un article dans le journal, et puis une rencontre avec Mylène qui va être la véritable motivation du film. C'est-à-dire que aussi bien Francesque que moi, nous sommes bouleversés par la dignité de Mylène. Et en fait, Mylène va être la figure tutélaire du film. En fait, c'est elle qui va, on va la suivre. Elle va nous donner le courage de faire ce film. Et je pense que ça, c'est effectivement important. Donc, à partir de ce moment-là, on a une écriture commune avec Francesque. Et cette écriture commune, elle a le visage de Mylène.
Qu'est-ce que vous vouliez raconter ? Le combat de Mylène, principalement, ça a été votre motivation. Également, ouvrir les yeux à ceux qui ont tendance à détourner le regard ?
Alors certainement ça, parce qu'au départ, disons modestement, parce que le film ça reste une opération modeste, je dirais sortir du silence, faire qu'on puisse sortir du silence, qu'on puisse sortir de cette chape de plomb qui recouvre quand même le sujet depuis très longtemps, on le sait bien.
Donc si mais surtout que les je vous interromps, mais les violences conjugales pendant très très longtemps sont restées de l'ordre du privé, de la vie conjugale justement.
Tout à fait, tout à fait. Donc de l'ordre, on pourrait même dire du secret de famille. Par conséquent, on est dans une époque aujourd'hui où avec les mouvements MeToo et autres, on sort un peu de cette sphère privée. On a une sorte de pas en avant où finalement, j'ai envie de dire, la honte change de camp. Parce que finalement, dans ce secret de famille, dans ce silence des femmes battues ou maltraitées, il y a la honte. Donc la honte qui paralyse, qui fait qu'on se sent presque coupable d'être battu ou maltraité, souvent.
Complètement coupable, même, parfois, complètement coupable.
Parfois, complètement, vous avez raison de le dire. Donc, donc en fait, il y a cette volonté de redonner la parole. Et en fait... à travers Mylène, c'est-à-dire c'est elle qui porte ce courage et qui nous donne le courage de la suivre. En fait, j'ai envie de dire, le film suit Mylène. Il se fait naturellement et l'écriture de film se fait dans la continuité très naturellement, une sorte d'énergie vitale, une urgence à dire les choses et à les présenter. Après, il y a le choix de Francesque aussi, parce que il a une certaine expérience des sujets sensibles, il a une vision de ces sujets. Donc c'est important aussi son regard. C'est pas un réalisateur qui se précipite. Il prend son temps. Il l'a dit tout à l'heure. Il a le temps de la réflexion, le temps des silences aussi. Il sait les capter. Et je pense que dans l'intimité du sujet, ce choix avait une importance de quelqu'un qui puisse respecter ces silences et surtout respecter tous les sujets.
Alors, Michael Andréagne, en tout début d'émission, a fait ressurgir ce document de l'INA, qui était un micro-trottoir de France 2 à l'époque. Et j'ai demandé la lourde mission à Cécilia Canté, de descendre dans la rue aujourd'hui et de poser la même question.
Non, pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible. J'arrive pas à comprendre.
Ah non, absolument pas. Non. Je vois pas la raison pour laquelle je... Une femme, surtout pas. Même pas avec une fleur. Des mots peut-être un peu sévères, mais c'est tout. Ça, jamais.
Oh non, bon, après, dans la colère, un geste peut partir peut-être, mais pas intentionnellement, c'est sûr.
Non, jamais. Non.
Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit ?
Non.
Même pendant une dispute, vous étiez très énervé sans passer à l'acte ?
Non, je m'en vais dans ces cas-là.
Et qu'est-ce que vous pensez des hommes qui battent leurs femmes ?
Je les tue. Oui, je les tue. Tous. Ou si je les tue pas, je les castre.
Ah non. Jamais de la vie. Ça me passerait jamais par l'esprit.
Jamais.
Jamais.
Enfin, pour des dernières années, moi.
Il y a longtemps.
Oh là là. Non, ça va. Quand on est jeune, non. Yeah.
Ah ouais, ça, des fois, ça arrive qui une gifle, ça fait du bien.
Et Awa?
Non. Ça fait des années maintenant que...
C'est fini.
C'est fini, oui.
Est-ce que vous avez déjà frappé une femme?
Oui.
Dans quelles circonstances?
Elle m'avait énervé.
Est-ce que vous avez regretté?
Oui.
Non, jamais j'ai frappé la femme, moi.
Que la femme, c'est ma mère, c'est ma sœur.
Qui, moi?
Ça serait mentir si je disais non.
Donc ça vous est déjà arrivé?
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez des hommes qui battent leur femme?
Des salopards.
Une fois, ça peut arriver, mais pas tout le temps.
Voilà, regardez, 80, 100, une.
Elle l'a mérité, là.
Ah non, moi, j'ai jamais frappé ma femme, mais je les caresse, les femmes. Ah.
Et si je vous dis que tous les ans, il y a plus de 120 femmes qui meurent sous les coups de leur mari?
Parce qu'elles veulent bien. Bien sûr qu'elles veulent. Sinon, ils ont qu'à les quitter, les maris. Qu'est-ce qu'ils en font? Il y a 6 000 hommes pour une femme.
Est-ce que vous avez déjà eu envie de frapper une fille?
Non. Non.
Qu'est-ce que vous diriez aux adultes, les hommes adultes qui frappent leurs femmes?
Le bleu, c'est une mauvaise couleur.
Bah, ça se fait pas.
Le bleu, c'est une mauvaise couleur. Voilà ce que vous avez recueilli. Bonsoir, Cécilia Cantel.
Bonsoir à tous.
C'est incroyable. On a l'impression que quasiment rien n'a bougé.
Alors, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je voulais voir, puisqu'on a parlé donc du Grenelle qui avait eu lieu, la mise en place de ce numéro, etc., etc. Mais je me suis dit, au niveau des mentalités, vous l'avez dit tout à l'heure, le mouvement MeToo, etc., la prise de parole qui est un peu plus présente, on va dire. Alors, je me suis dit, est-ce que les mentalités dans la rue ont vraiment évolué?
Et puis, ça va plus loin. On s'est dit, vous êtes une femme, vous allez poser cette question
exactement
directement aux hommes, ils vont jamais oser
exactement
vous dire oui.
Et je pensais très sincèrement tomber ou sur des très braves hommes, ou des hypocrites, ou des lâches, qui allaient me dire, mais non, pas du tout. Eh bien non, il y en a qui assument et qui vont jusqu'au bout.
Vos réactions, Francesc ou Mylène, Catherine, à ce que vous venez d'entendre?
Il y a quelque chose qui ressort là quand on dit elles ont qu'à partir, c'est leur faute. Mais justement le problème il est là, c'est que on ne connaît pas, la majorité des gens ne connaissent pas le cycle de la violence, comment elle s'instaure, et ne savent pas que c'est un phénomène qui après est très dont on sort très difficilement, parce qu'il s'instaure au fil du temps. Ça commence insidieusement par des remarques, par une violence d'abord psychologique, et puis on passe à la violence physique, verbale d'abord. Et après, c'est très difficile parce que la femme qui en est victime peut penser qu'elle est en partie coupable. Et ça, il se passe un phénomène ensuite de sidération qui fait que la personne ne peut plus réagir. Elle ne peut plus s'en sortir seule.
Quel que soit le milieu, quel que soit l'âge, toutes les femmes peuvent être victimes. Il n'y a pas de profil type de victime.
Non, il n'y a pas de profil type. Toutes les catégories sociales sont concernées, tous les milieux professionnels et tous les âges.
Et ça, on le sent bien dans votre film, Francesco Artigli, que les gens pensent ne pas être concernés, et on se rend compte que les victimes, elles sont toutes différentes. Il n'y a pas de point commun, comme on a pu l'entendre parfois. Ben, vous êtes victime de quelqu'un de pervers, mais c'est que vous-même, peut-être, il y a quelque chose qui ne s'est pas réglé dans l'enfance, dans votre vie. Or là, on se rend bien compte que les victimes sont diverses et variées.
Oui, tout à fait. Et pour revenir sur le témoignage aussi, oui, c'est assez préoccupant. On se rend compte surtout que les mentalités n'ont pas évolué ces dernières années, et voilà, qu'il y a vraiment il faut vraiment essayer de déconstruire tout ça, de changer les mentalités. C'est difficile parce que de déconstruire tout ça, justement, parce que voilà, sur des générations.
Voilà, et c'est là qu'intervient le milieu éducatif, hein, où tous les les intervenants des milieux éducatifs doivent avoir leur part à faire pour changer les mentalités. Il faut sensibiliser les enfants, hein, qui sont les premiers vecteurs de transmission d'une génération non violente et non sexiste.
On a une jolie parole d'enfant, oui, à la fin de ce micro-trottoir. Le bleu, ça n'est pas une belle couleur. Catherine, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je pense qu'il faut du temps pour changer les mentalités. Donc, il ne faut pas perdre de vue cette notion de temps, même si, je dirais, les mouvements féministes ont précipité des décisions institutionnelles, ont fait avancer le droit des femmes, par exemple, le droit de maîtriser la fécondité, le droit du travail. Mais en même temps, il faut se dire, et en écoutant les témoignages qui, évidemment, en eux-mêmes, ils sont accablants, mais il faut du temps pour qu'on puisse déconstruire des schémas et qui sont fondés finalement sur une domination des hommes. Donc les femmes, elles ont effectivement du chemin à parcourir avec les hommes. Je crois que ce sont des choses qui prennent du temps, il faut en avoir vraiment conscience et qu'on doit rester vigilant. Moi, je crois que c'est ce que j'ai envie de dire, il faut être vigilant, c'est un peu ce que disait Mylène, c'est un problème d'éducation, il faut être vigilant, et en face de nous, on a quand même des systèmes qui sont un peu bureaucratiques. Moi, je l'ai vu quand j'ai commencé à vouloir produire ce film. J'ai quand même rencontré des difficultés par exemple du côté de l'éducation nationale. Mylène disait que c'est un problème éducatif, elle a bien raison, mais en même temps j'ai souhaité par exemple pouvoir filmer à l'intérieur du lycée Laetitia, et ça a été très compliqué. Je suis tombée sur un système bureaucratique qui fait qu'il faut prendre le temps de 100 000 autorisations et qui n'est pas forcément adapté, je dirais, à l'actualité, aux besoins de prise de parole et aux besoins de réaction dans la société. Donc ça, c'est ça. Après, il y a aussi la délégation aux droits des femmes. J'ai pas réussi quand même à être reçue. Nous n'avons pas réussi, puisque j'étais avec Mylène, à être reçue par la déléguée aux droits des femmes. On avait un rendez-vous et en fait, elle n'est pas venue à ce rendez-vous. On a eu affaire à quelqu'un qui était une personne charmante, bien entendu, mais qui n'était pas au courant des sujets. Donc là aussi, c'est compliqué. Alors bien sûr, les personnes ne sont pas en question, mais plutôt les systèmes. C'est-à-dire qu'on a en face des systèmes extrêmement bétonnés. Il faut en avoir conscience, même si d'un autre côté, on a l'impression que ça avance. La lutte est quand même très complexe.
Mais alors, outre... On va dire tout le système administratif qui est compliqué. Est-ce que c'est parce que c'est un tabou ou est-ce que c'est parce qu'on ne prend pas la mesure de la gravité de ce que nous vivons?
J'ai envie de dire un peu les deux, parce qu'il y a toujours ce phénomène de tabou, c'est-à-dire de cette chape de plomb. On pense aussi, comme ça a été rappelé tout à l'heure, que ce problème finalement, c'est l'affaire de cas sociaux, que les femmes qui sont battues, dans le fond, c'est parce que elles appartiennent à certaines classes de la société. C'est faux, totalement faux. Ce sont des stéréotypes, des choses qui n'ont des pensées qui n'ont pas lieu d'être. Ça, comme on l'a dit, ça concerne vraiment toutes les femmes, tous les milieux. Donc déjà, il faut sortir de ces tabous. Et puis, il y a aussi, comme vous le dites, une mesure qui n'est pas réellement prise. En fait, on parle beaucoup de théorie et on n'est pas réellement dans le concret. Donc, vous rappeliez tout à l'heure le cas de l'Espagne. Ça me semblait justement très intéressant parce que finalement, c'est un pays européen voisin. On aurait pu en 10 ans, puisque les mesures ont été mises en place en 2004, effective en 2008, donc on dit relativement 10 ans d'expérience. 10 ans d'expérience, on s'aperçoit, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a à peu près 45% de féminicides en moins. Donc finalement, ces mesures d'urgence, on aurait pu copier sur l'Espagne, on aurait pu, et en fait, pas du tout. On peine à mettre en place ce qu'un pays européen voisin a déjà, dont un pays européen voisin a déjà la maîtrise, en quelque sorte. Et on peut tirer des conclusions. Donc vous mesurez bien la lenteur du système. Je pense qu'il faut effectivement, et je parle sous le contrôle de Mylène, il faut des mesures concrètes. Il faut qu'on sorte de... Il faut arrêter de théoriser un peu le sujet. Et je crois que le film, encore une fois, modestement, le film veut rentrer dans le concret, c'est-à-dire avancer un peu les difficultés du quotidien.
Oui, il faut passer en fait de la théorie avec toutes ces belles lois qui sont écrites et qui sont divulguées à la pratique. Et en tant qu'association, on est en plein dans ce qu'on appelle, on est sur le terrain, on est dans la pratique et on se rend compte que certaines femmes sont complètement coincées dans des procédures judiciaires qui n'en finissent plus. Et j'ai en tête justement une jeune femme qui m'a contactée il y a quelques temps et qui est en centre d'hébergement et qui attend un logement et qui ne correspond pas qui n'a pas certains critères, et donc elle va se voir refuser un hébergement, et c'est la condition sine qua non pour avoir la garde de ses enfants. Et là, il y a quelque chose qui me semble important à soulever, c'est que voilà, c'est tout le temps les femmes femmes qui sont sorties de leur logement, qui s'en vont, alors qu'on pourrait aussi s'occuper des hommes et pourquoi pas les faire partir, leur faire quitter le logement, de manière à ce que la femme puisse rester avec ses enfants. Voilà.
Le film documentaire Savannah, que vous découvrirez en avant-première mardi prochain, le 24 septembre à 21h au cinéma L'Ellipse, et sur France 3 Corse VST le vendredi 27 septembre à 20h45. Toc Toc, la productrice Catherine Albertini, la présidente de l'association Savannah, Mylène Jacquet, et le réalisateur Francesco Artilli pour nous présenter le film documentaire Savannah, à découvrir le 24 septembre en avant-première à 21h au cinéma L'Ellipse, et le 27 septembre sur France 3 Corse VST à 20h45. Francesco Artilli, vous nous présenterez également le 6 octobre prochain au festival Passion Cinéma Island Road, un film absolument merveilleux. Je suis complètement tombée sous le charme de ce film qui met en lumière l'île de Jean-Charles, qui est située dans le bayou au sud-est de la Louisiane, et ses habitants, une cinquantaine d'âmes.
Merci Marie. Oui, pour le coup là, je pars en Louisiane poser mes valises. Alors, c'est un documentaire d'une durée de 75 minutes. Alors il faut savoir que c'est un documentaire qui m'a pris énormément d'énergie, énormément de temps.
5 ans,
voilà, de l'écriture à la réalisation. Et donc pour le coup, je me suis intéressé à une presqu'île, l'île de Jean-Charles, qui est habitée par 3 communautés, les Indiens Choctaw, Chitimacha et
Biloxi,
exactement. J'avais un trou. Et donc, en fait, la particularité de cette presqu'île, c'est qu'elle est en train de s'enfoncer sous l'eau, donc dû au réchauffement climatique, mais pas que aussi. Elle est entourée de plateformes pétrolières. Il faut savoir que la Louisiane aussi, c'est le 4e état qui produit de pétrole. Et donc, du coup,
ces personnes sont forcées à une migration complètement contrainte. Et ils ne veulent pas partir, c'est leur maison, c'est leur terre.
Alors c'est un peu plus compliqué que ça en fait. L'île, la presqu'île on va dire, est en train de s'enfoncer sous l'eau. Oui. Il y a un projet de relocalisation dans le centre des terres de Louisiane. C'est un projet qui a été voté. On ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'ils vont être relocalisés. C'est un projet qui dure quand même depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, on n'a toujours pas les réponses. Sur la presqu'île, donc, comme vous disiez, il y a une cinquantaine de résidents. Il y a une moitié qui souhaite partir. Parce que bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que en plus de tous ces problèmes, ils sont aussi, alors tous les 2-3 ans, ils sont un petit peu fouettés par des ouragans qui viennent balayer la région. Donc ils sont obligés de reconstruire leur maison. C'est des gens qui sont âgés. Donc une moitié a envie de partir, souhaite partir parce qu'ils sont fatigués, ils en ont marre de tout reconstruire. Et puis ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment les résistants qui, eux, estiment que c'est leur terre, ils ne veulent pas bouger. Et qui, alors, il y a un projet de on va dire qu'il y a eu un projet de protection qui avait été initié par le gouvernement américain, mais qui a été abandonné par la suite. C'était le projet, c'était de construire une digue tout autour de la presqu'île, une digue de manière à pouvoir les protéger des ouragans. Sauf que le gouvernement a estimé que les terres ne valaient rien et que c'était plus, en tout cas, c'était moins coûteux.
Exactement,
c'était moins coûteux de les déplacer. Donc là, au niveau du projet, là aussi, c'était un peu flou lorsqu'on est allé sur place, parce que on sait qu'ils ont reçu une somme du gouvernement pour être relocalisés, mais donc bon. On nous a dit que les terres avaient été achetées, ensuite le contraire. On n'a pas pu en savoir plus. J'ai essayé d'aller voir ces terres, mais là aussi c'était très flou. Donc du coup, les habitants sont un petit peu agacés. Ils se demandent même où est passé l'argent. D'ailleurs, il y a une petite scène qui est assez amusante sur le balcon.
Elle est formidable, cette scène.
On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec cet argent.
Oui, mais enfin, ils se sont achetés des choses. Hein.
Voilà, ils sont...
Ils en ont profité, oui.
Ils en ont profité, exactement.
Mais pas nous. Ils disent, mais nous, rien. Ouais.
Et nous, rien, exactement. Donc voilà, là aussi, c'est un grand flou. Ouais. On sait qu'ils vont devoir partir. Ça, c'est une évidence. On ne sait pas quand encore. Voilà.
Ça s'appelle Island Road. C'est un film donc de Francesco Artigli que vous découvrirez le 6 octobre au festival Passion Cinéma. Et puis peut-être que vous organiserez des avant-premières à Bastia, Ajaccio, que sais-je.
Alors j'espère. Oui, je compte faire une. J'aimerais bien faire une avant-première sur Bastia, bien sûr.
Il a été sélectionné dans un très beau festival.
Il a fait pas mal de festivals depuis cet été, notamment le Haddock, qui est un festival de documentaires hors circuit.
Ça lui va bien.
Ça lui va bien, voilà. Donc quand je dis hors circuit, en fait, le documentaire hors circuit, tout simplement, c'est un documentaire qui n'a pas de distributeur et qui n'a pas de chaîne de télé. Ouais, il faut le savoir. Donc c'est un film autoproduit, ce qui a été le cas d'Island Road. Donc voilà, j'espère qu'on a réussi aussi à toucher l'industrie de Vision du Réel et Ogdocs, qui sont peut-être les deux plus gros festivals de documentaires au monde. Donc on en est fiers, hein, parce que on est une toute petite production. Et puis il sera présenté aussi en Corse au festival politique à Porto Vecchio. Donc le festival aura lieu du 24 au 27 octobre, j'ai pas encore la date précise. Mais oui, voilà, pour répondre à votre question, des avant-premières peut-être sur Bastia, et puis on espère qu'il tournera encore en festival.
Et puis pour les gens qui ne vous auraient pas reconnu, je rappelle que vous êtes le réalisateur du film On m'a donné la terre, qui a eu beaucoup de place dans les festivals, et notamment le prix Artemare l'année dernière. Donc je le signale. J'ai envie de vous faire sourire, mesdames, et j'ai envie de vous faire plaisir avec la présence de Thomas Brondini. Bonsoir Thomas.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Vous aussi Francesco, j'ai envie de vous faire sourire. Thomas nous fait le plaisir de venir, alors pas tous les soirs malheureusement, parce qu'il est trop pris comme garçon, mais il nous fait jouer avec un mash-up. Je ne sais pas si vous êtes fort, mais vous pouvez participer à ce jeu. Il choisit une musique et des paroles, mais elles ne vont pas ensemble. Il faut donc trouver la musique et les paroles. Vous allez voir, c'est un exercice extrêmement ardu que lui seul, esprit, je ne sais pas, génial, peut concevoir. C'est parti.
Bon, je demande votre clémence parce que je suis très troublé par ce que j'ai entendu ce soir, et donc j'ai mes doigts qui tremblent énormément.
Si vous avez le rôle de nous détendre. Là.
Alors, je lance une première chanson, bien évidemment, une musique donc appartenant à une chanson et des paroles d'une autre chanson. Il faut trouver bien évidemment les deux.
Et Cécilia peut jouer parce qu'elle est très forte.
Oui.
Bien sûr.
Attention. Tu m'as dit que j'étais faite pour j'ai des idées plein la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours, la 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 ni na na na. Oui, et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, eh bien oui, qu'est-ce que tu diras? Attention, le refrain, c'est important. Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, la 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 la.
Mais là, je suis incapable, là.
Donne tes emblèmes.
La musique, je l'ai.
Alors,
c'est le rire du sergent.
Excellent.
Voilà. Michel Sardou. Et les paroles n'en sont pas.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle
Véronique
de vie.
Sanson.
Ah, Véronique.
J'ai des idées plein la tête. Et je fais ce que j'ai envie.
Ça la massacre, le rire du sergent.
C'est énorme.
Le duo Sardou Sanson n'est pas.
Mesdames, vous aviez trouvé?
Catherine. Pas du tout. Non, pas du tout.
Allez, concentrez-vous. Non, alors, s'il
on
vous
va
plaît.
Se concentrer. Allez,
concentrez-vous parce que ça devient de plus en plus dur.
Allez-y, la suite.
Alors là, attention, ça devient très dur.
C'est rare de le voir en panique comme ça.
C'est vrai.
Ouais. Ce soir, il est en panique.
Tout arrive.
Tout arrive. Demandez-moi de combattre le diable. D'aller défier les dragons du néant.
Le géant de papier pour les paroles.
De vous construire des tours, pas des cathédrales. Sur des sables mouvants. Sur des sables mouvants.
Et la musique, c'est Viad de Canto Concourte.
Vous n'êtes pas obligé
quand
de le dire avec...
Je la regarde, moi l'homme lourd au cœur d'acier.
Ah, c'était ça, le géant de papier. C'était le géant de papier.
C'était très bien, le géant de papier avec la musique de Billard. Ouais.
Mais est-ce que Michael est obligé de le dire avec cette prétention-là, cette...
Non, il a pas dit avec cette prétention. Il a dit parce que c'est le champion. Je vous rappelle qu'il est le champion, c'est lui
mais
qui mène.
On arrivera à le détrôner au fil des mois. Il y en a marre que vous gagnez. Il y en a une troisième.
Il y en a une troisième. Alors
enfin, c'est... là, on est ex aequo parce que je trouve les paroles.
Exactement.
Ok.
Enfin, vous avez, oui, vous avez trouvé les paroles, mais alors qui avait pris le premier?
Et c'était Cécile.
La musique, d'accord, c'était...
Celui-là, il est très ténu. Hello, papi, mais... Non, si vous me coupez, après, vous avez le temps de réfléchir. Hello, papi, ma que pasa. J'entends des bails atroces sur moi.
Oui.
À ce qui paraît bien, qui a dit Ayana
Kamura?
C'est
moi,
c'est Cécilia.
Ah, bien, Cécilia, très
mais,
bien.
Mais il n'y aurait pas sur la route de Memphis, oui, la musique?
Exactement, avec okay. La route
non,
de Memphis.
Non, moi, j'en veux encore, ça là, elle me plaît.
Ah oui, oui, moi aussi.
Hello, papi, ma que pasa. J'entends des bails atroces sur moi. Ce qui paraît, je te cours après. Oh, 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 ça va pas te tarer, ouais.
Mais ces paroles sont d'une grande puissance.
Oh, Dja Dja, y a pas moyen, Dja Dja. Attention. Oh, je suis pas ta catin, Dja Dja. Genre Kachana, baby, tu dis ça. Ça continue après.
Bon, merci, merci beaucoup. Bravo, 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 ouais. Bravo.
Merci beaucoup.
Bon, alors c'est Cécilia qui gagne ce soir, mon
et
cher
bim.
Michael.
Et
bam. J'ai bien peur de vous l'annoncer.
Pas de souci.
Eh ben oui. Catherine Albertini, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, productrice du film Savannah. Il y avait avec nous également Mylène Jacquet. Vous êtes la présidente de l'association Savannah et la maman de Savannah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Et Francesco Artigli, réalisateur merci. Du film documentaire Savannah, que nous verrons donc le mardi 24 septembre à 21h au cinéma L'Ellipse et sur France 3 Corse via Stella le 27 septembre. Et vous l'avez entendu, Island Road de Francesco Artigli le 6 octobre à Passion Cinéma. Et puis on n'a pas la date exacte pour le festival.
6 octobre, Passion Cinéma à 18h30 et en attente de la date de
Porto-Vec.
De Porto-Vec, ouais.
Est-ce qu'on pourrait se quitter avec une chanson, Thomas?
Oui, tout à fait. Oui. Non, non, bien sûr. Une chanson, donc. Une chanson que
on
j'ai choisie.
On vous pirate, on vous
pirate. On me pirate, c'est normal. Mais censure. Ça me détend un peu. Une chanson que j'ai choisie pour un petit peu pour la circonstance, pour justement une chanson pour les femmes.
Au revoir à tous, merci beaucoup.
Femme du monde ou bien putain, qui bien souvent est les mêmes. Femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, y a pas de gonzesse ou si peu dans les hordes de supporters. Des fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, défiant les crétins en bleu, insultant les salauds en vert. Y a pas de gonzesses, hooligans, imbéciles ou meurtrières, y en a pas même en Grande-Bretagne, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu amoché ou pour un doigt tendu bien haut, y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour de bras à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que tu vas pas mourir à la guerre, parce que la vue d'une arme à feu fait pas frissonner tes ovaires. Parce que dans les ranges des chasseurs qui dégomment la tourterelle et occasionnellement les beurs, j'ai jamais vu une femelle. Pas une femme n'est assez minable pour astiquer un revolver et se sentir invulnérable, à part bien sûr Madame Thatcher. C'est pas d'un cerveau féminin qu'est sortie la bombe atomique, et pas une femme n'a sur les mains le sang des Indiens d'Amérique. Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide, c'est arménien comme un SS, un torero. Dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères. Pas une femme pour rivaliser, à part, c'est vrai, Madame Thatcher. Femme, je t'aime surtout, enfin, pour ta faiblesse et pour tes yeux. Quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin. Moi, je me changerai en chien si je peux rester sur la terre. Et comme réverbère quotidien, je me payerai Madame Thatcher.
France Bleu RCFM.